Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Salut Christophe Gérard, comment ça va?
Ça va bien, merci. Et toi, Denis?
Oui, ça va, oui, ça va bien. Je sais, on vous fait, on te fait rester tard parce qu'à Paris, présentement, il est 11h30, 23h30 du soir. Mais on est très content que tu restes debout. Surtout qu'on veut parler du remaniement ministériel en France. Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal Premier ministre. Et puis ça peut être intéressant pour nos communautés.
Oui, alors pour donner un nouveau souffle à son quinquennat, Emmanuel Macron a annoncé un remaniement ministériel le 8 janvier dernier. Et c'est donc Gabriel Attal qui remplace Elisabeth Borne en tant que Premier ministre français. Alors c'est un événement à plusieurs titres. D'abord parce qu'à 34 ans, Gabriel Attal devient le politique le plus jeune à occuper ces fonctions. Et puis surtout, c'est la première fois que la France a un Premier ministre ouvertement gay.
Wow, ça c'est quand même, hein. Mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qui est ce Gabriel Attal?
Oui, alors quand on parle de Gabriel Attal, on parle d'une carrière fulgurante et d'un des personnages politiques préférés des Français. Donc en fait, si on veut résumer sa carrière, il a commencé par passer 10 ans au Parti socialiste et il a été conseiller de Marisol Touraine alors qu'elle était ministre de la Santé sous le quinquennat Hollande. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Emmanuel Macron et il va le suivre dès que celui-ci va se lancer dans la course à la présidence. Donc, à partir de ce moment-là, les choses vont aller très vite pour lui parce qu'il va être dans un premier temps élu député des Hauts-de-Seine et puis très vite, il va rejoindre le gouvernement où il va occuper un certain nombre de fonctions. D'abord, il va être secrétaire d'État à l'Éducation nationale. Il sera également donc porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des comptes publics et puis plus récemment ministre de l'Éducation nationale. Et c'est à ce titre qu'il va prendre très rapidement des mesures contre le harcèlement scolaire.
Mais justement, quel impact aura la nomination d'un Premier ministre gay pour nos communautés?
Très sincèrement, pour nos communautés, ça va avoir une valeur purement symbolique. D'ailleurs, un certain nombre d'associations LGBTQIA+, comme SOS Homophobie, ont dans un premier temps donc salué cette nomination. Par contre, l'enthousiasme est très vite retombé, hein, puisque quand le gouvernement a été annoncé, la composition du gouvernement a été annoncée, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ministres, plutôt à droite, qui avaient soutenu la manif pour tous et étaient contre le mariage pour tous il y a 10 ans maintenant. Donc,
Ça
ça risque d'être un peu compliqué.
inclut donc Catherine Vautrin, mais semble-t-il qu'elle s'est elle est revenue sur sa position, j'ai entendu récemment là, sur BFM TV.
Ouais, tout à fait. Mais alors, c'est quelqu'un qui est assez controversé chez nous, puisque au-delà du fait qu'elle elle a pris des positions, donc elle a été vraiment l'un des cœurs des faire-valoir du mouvement La Manif pour tous. En 2017, elle a pris également des positions contre l'avortement. Donc, c'est un personnage qui est quand même très ancré à droite et très conservateur.
Donc, on fait 2-3 pas à gauche, puis on a fait 4-5 à droite, et puis on continue. Bon,
C'est bien ça.
j'étais pour dire des pas en avant, des pas en arrière, mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Alors, la Grèce, bon, on va changer de pays, on va aller en Grèce. La Grèce veut légaliser le mariage entre couples de même sexe et leur accorder même le droit à l'adoption.
C'est ça, en fait, c'est lors d'un entretien donné à la télévision que le Premier ministre grec, qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis, a annoncé vouloir légaliser le mariage entre personnes de même sexe et leur accorder le droit à l'adoption.
Ouais, mais c'est tout un événement, ça, pour les Grecs.
Tout à fait, hein, surtout que dans ce pays, en fait, le modèle familial traditionnel est prédominant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la Grèce dispose d'un contrat d'union civile, mais l'adoption pour les familles homoparentales n'est pas autorisée. Ce qui fait que seul le parent biologique a des droits sur les enfants, et en cas de décès de ce dernier, bien, les enfants sont retirés aux parents restants. Alors, les nouvelles dispositions devraient permettre pour les couples de même sexe d'avoir des droits en matière de famille, à une exception près cependant, hein, c'est que contrairement aux hétérosexuels, ils ne pourront pas avoir recours à une mère porteuse.
D'accord. Bon. Alors, mais là, est-ce qu'on sait quand cette loi va être votée et voire adoptée?
Alors, pour l'instant, Kyriakos Mitsotakis n'a pas donné de date hein, pour la présentation du projet de loi auprès du Parlement. Par contre, ce qu'on sait, enfin, c'est ce que disent plusieurs médias grecs, c'est qu'il pourrait être discuté avant les prochaines élections européennes qui se tiendront en juin prochain, donc de cette année.
Donc, on va traverser la Manche maintenant. En Angleterre, les assassins de Brianna Gay, qui est une jeune femme trans, sont reconnus coupables.
Oui, alors c'est une affaire qui avait suscité l'émotion en Angleterre en février dernier. L'assassinat donc d'une jeune femme trans dans un parc de la ville de Warrington, elle a été poignardée à plusieurs reprises. Alors Brianna était décrite comme une personnalité hors du commun par ses parents et elle était très impliquée dans la communauté trans, en aidant notamment des jeunes filles trans à accéder à un traitement hormonal en toute sécurité et légalement. Alors, selon ses amis, elle avait fait face à des années de harcèlement et de violences transphobes. Et très rapidement, la piste d'une attaque ciblée d'un crime de haine ont été privilégiées par la police. Et donc, ces derniers vont arrêter deux adolescents de 15 ans, un jeune homme originaire de la ville de Lee et une jeune fille qui vit à Warrington.
Et qu'est-ce qu'on sait justement de ces deux accusés?
Alors, durant sa garde à vue, l'adolescente a reconnu être fascinée par les tueurs en série et avoir développé une véritable obsession, pour Brianna Gay, avec qui elle a été amie pendant plusieurs mois. L'adolescent, quant à lui, ne connaissait pas la victime, était cependant ami avec l'autre accusé, et on a trouvé en fait sur leur téléphone de nombreux échanges dans lesquels ils évoquent leur volonté de tuer plusieurs enfants. De plus, il y a des traces de sang de la victime qui ont été retrouvées sur le couteau de chasse du jeune homme ainsi que sur ses vêtements.
Alors, le procès a eu lieu.
Oui, il s'est tenu à Manchester en décembre dernier et la cour a déclaré coupables les deux adolescents et ils encourent la réclusion à perpétuité. Par contre, la décision a été mise en délibéré et elle devrait être connue le 2 février prochain. Et c'est à cette occasion en fait, que le nom des deux meurtriers devrait être dévoilé, puisque le président du tribunal a décidé de lever ce qui est une protection hein, de l'identité des personnes condamnées pour meurtre. C'est une loi hein, qui existe en Angleterre.
Et comment ça a été couvert, ça, par la presse?
Alors, comme on s'en doute, hein, la presse, en tout cas le traitement médiatique de cette affaire, a été vraiment critiqué. Certains journalistes ayant mégenré Brianna en utilisant son dead name, par exemple, en allant plus loin hein, jusqu'à gommer sa transidentité. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'un professeur de droit spécialisé dans les droits de l'homme, qui s'appelle Santorunj Raj, a déclaré « Nous avons tous la responsabilité de contester les manières insidieuses dont les médias et les politiciens déshumanisent les personnes trans. » Alors, bien plus que crime sordide, la disparition tragique de Brianna Gay est une nouvelle preuve que nous devons tous faire de quoi en fait protéger la communauté trans à travers le monde, une communauté qui est particulièrement fragile.
Bon, on retourne sur le continent parce que ça se passe habituellement à Bruxelles. Les eurodéputés ont approuvé une proposition reconnaissant la filiation des enfants de familles homoparentales ou de familles LGBT.
C'est bien ça. En fait, tout commence par avec un arrêt de la Cour européenne de justice en 2021 qui avait estimé que la Bulgarie avait violé les droits fondamentaux de la fille apatride d'un couple de lesbiennes qui vivait à l'étranger en refusant de lui délivrer une carte d'identité. Alors, le texte proposé par la Commission européenne, c'est une solution pour éviter cette situation. En effet, il prévoit de créer un certificat européen de filiation accepté partout dans l'Union européenne.
Mais qu'est-ce que ça va apporter finalement?
Ah, c'est une garantie que tous pays de l'Union européenne reconnaissent les droits de filiation accordés par un autre membre ce qui protégera en fait les droits des enfants de familles homoparentales. L'objectif, c'est de lever des obstacles juridiques qui peuvent exister, par exemple, quand une famille homoparentale déménage d'un État membre où leurs droits sont reconnus vers un autre où ils ne le sont pas.
Et quelle est l'utilité donc de ce certificat européen de filiation?
Alors, ce certificat européen de filiation permettrait de faire valoir leurs droits en matière de pension alimentaire, par exemple, ou de succession, sans avoir à engager des procédures administratives ou judiciaires qui s'avèrent souvent longues et coûteuses.
Oui, on a le même problème ici. Je pense qu'il y a maintenant cette reconnaissance-là, mais c'est, oui, effectivement. Et on sait combien d'enfants seraient concernés là, par cette situation?
Alors on estime qu'il y a 2 millions, à 2 millions en tout cas, le nombre d'enfants susceptibles d'être confrontés à une situation dans laquelle leurs parents ne sont pas reconnus comme tels dans un pays de l'Union européenne, ce qui a sans doute un véritable impact hein, sur leur vie quotidienne et leur avenir.
Et cette proposition a-t-elle été bien accueillie?
Alors, Cette proposition est loin de faire l'unanimité. Par exemple, durant les débats, certains eurodéputés ont lancé des accusations d'ingérence, estimant que le texte allait imposer la reconnaissance de la gestation pour autrui dans toute l'Europe. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que les règles proposées ne visent absolument pas de modifier les politiques nationales en matière de droit de la famille, qui relèvent de la compétence de chaque État ici en Europe. Si le texte a été adopté par 366 voix pour, 145 contre et il y a eu 23 abstentions, tout reste encore à faire. Pour qu'elle soit adoptée totalement, il faut qu'il y ait un accord à l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne, ce qui est loin d'être gagné quand on sait que certains pays, comme la Pologne ou la Hongrie par exemple, sont hostiles au projet.
Ah, ça
Par
m'étonne.
contre, les eurodéputés verts, qui sont à l'origine de ce texte, ils se félicitent cependant de la position adoptée par le Parlement européen et ils demandent au Conseil européen de suivre cet avis pour faire en sorte tout simplement que les familles LGBTQIA+ puissent bénéficier des mêmes droits que les autres familles.
Les Jeux olympiques s'en viennent en France. Paris, donc, aura une maison des fiertés pour les Jeux olympiques.
Ouais, actuellement, si on évoque les Jeux Olympiques ici en Paris, on va parler de sécurité, de transport. Mais c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée à la mi-décembre pour nos communautés, puisqu'en effet, il y aura une maison des fiertés pendant toute la période des Jeux des JO et même des Jeux paralympiques.
Et qu'est-ce que ça va apporter, ça?
C'est une chose primordiale, puisqu'on sait que les LGBT-phobies sont très présentes dans le domaine du sport. Si l'on croit une étude parue en septembre dernier, c'est 73% des personnes LGBTQIA+ qui ont été témoins de comportements homophobes et transphobes en milieu sportif, et c'est la moitié d'entre elles qui ont été personnellement victimes.
Alors, comment ce lieu va-t-il fonctionner?
Alors, ça va fonctionner sur le principe de ce qu'on appelle les Pride House. Et c'est sur ce principe-là que sera proposée la Maison des Fiertés de Paris 2024. C'est une association qui s'appelle Fierplay, qui agit pour le fair play, l'inclusion, l'équité et le respect des personnes dans les sports, quelle que soit leur orientation sexuelle et l'expression ou leur identité de genre. Et donc, le 15 décembre dernier, la mairie de Paris, qui participe à ce projet, a voté une subvention de 45 000 euros attribuée à Fierplay. Mais pour fonctionner durant la durée des Jeux, c'est un budget de 255 000 euros qui sera nécessaire. Alors, cette maison des fiertés, dont le lieu a été trouvé mais pas encore annoncé, accueillera notamment les athlètes LGBTQIA+ et leurs alliés pour la célébration des médailles. Mais ce sera également un endroit festif qui proposera des moments d'échange sur les thématiques de LGBTQI+, et le sport. Bref, un lieu qui sera ouvert à tous. Il y aura également des maisons mobiles sous forme de barnums ou de triporteurs qui iront également à la rencontre des touristes et des spectateurs dans le but de sensibiliser tous les publics. Le slogan des Jeux de Paris 2024 est Ouvrir grand les Jeux. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit l'occasion de célébrer la célébrité et l'engagement contre toutes les discriminations. Autre volonté de la part de la mairie de Paris, promouvoir le drapeau LGBTQIA+ et le rendre visible lors de ces Jeux olympiques.
Mais encore faut-il que les gens puissent se rendre à Paris et participer à ces jeux, parce que si j'ai bien compris, les transports en commun vont coûter plus cher, tout va coûter plus cher juste pour faire un peu d'argent pendant les jeux,
C'est bien ça.
hein. J'ai toujours le bon mot dans ces affaires-là.
Mais
Christophe,
totalement.
Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi et à très vite.